La Lydie n'offre pas, comme certains autres pays, des merveilles qui méritent place dans l'histoire. Sinon, les paillettes d'or détachées d'Hutmolus par les eaux du Pactole. On y voit cependant un ouvrage bien supérieur à ceux que l'on admire ailleurs. J'en excepte toutefois les monuments des Égyptiens et des Babyloniens. C'est le tombeau d'Aliat, père de Crésus. Le pourtour est composé de grandes pierres. Elles restent de terre amoncelée. Il a été construit aux frais des marchands qui vendent sur la place, des artisans et des courtisanes. 5 thermes, placés au haut du monument, subsistaient encore de mon temps et marquaient par des inscriptions la portion que chacune de ces 3 classes avait fait bâtir. D'après les mesures, la portion des courtisanes était visiblement la plus considérable, car toutes les filles dans le pays des Lydiens se livrent à la prostitution. Elles y gagnent leur dot et continuent ce commerce jusqu'à ce qu'elles se marient. Elles ont le droit de choisir leur époux. Ce monument a 6 stades, 2 plâtres de tour et 13 plâtres de largeur. Tout auprès est un grand lac qui ne tarit jamais à ce que disent les Lydiens. On l'appelle le lac Gigé, cela est-elle. Les lois des Lydiens ressemblent beaucoup à celles des Grecs, excepté dans ce qui regarde la prostitution des filles. De tous les peuples que nous connaissions, ce sont les premiers aussi qui aient fait le métier de revendeur. À les en croire, ils sont les inventeurs des différents jeux actuellement en usage tant chez eux que chez les Grecs. Et ils ajoutent que, vers le temps où ces jeux furent inventés, ils envoyèrent une colonie dans la Tyrrhénie. Voici comment ils racontent ce fait. Sous le règne d'Atys, fils de Manès, toute la Lydie fut affligée d'une grande famine, que les Lydiens supportèrent quelque temps avec patience. Mais, voyant que le mal ne cessait point, ils y cherchèrent remède, et chacun en imagina à sa manière. Ce fut à cette occasion qu'ils inventèrent les dés, les osselets, la balle, et toutes les autres sortes de jeux, excepté celui de jetons dont ils ne s'attribuent pas la découverte. Or, voici l'usage qu'ils firent de cette invention pour tromper la faim qui les pressait. On jouait alternativement pendant un jour entier afin de se distraire du besoin de manger. Et le jour suivant, on mangeait au lieu de jouer. Ils menèrent cette vie pendant 18 ans. Mais enfin, le mal, au lieu de diminuer, prenant de nouvelles forces, le roi partagea tous les Lydiens en 2 classes et les fit tirer au sort. L'une pour rester, l'autre pour quitter le pays. Celle que le sort destinait à rester eut pour chef le roi même, et son fils, Tyrrhénus, se mit à la tête des émigrants. Les Lydiens que le sort bannissait de leur patrie allèrent d'abord à Smyrne, où ils construirent des vaisseaux, les chargèrent de tous les meubles et instruments utiles, et s'embarquèrent pour aller chercher des vivres et d'autres terres. Après avoir côtoyé différents pays, ils abordèrent en Ombrie, où ils se bâtirent des villes qu'ils habitent encore à présent. Mais ils quittèrent le nom de Lydiens et prirent celui de Tyrrhénien, de Tyrrhénus, fils de leur roi, qui était le chef de la colonie. On a vu les Lydiens subjugués par les Perses. Mais quel était ce Cyrus qui détruisit l'empire de Crésus? Comment les Perses obtinrent-ils la souveraineté de l'Asie? Ce sont des détails qui exigent l'intelligence de cette histoire. Je prendrai pour modèle quelques Perses qui ont moins cherché à relever les actions de Cyrus qu'à écrire la vérité, quoique je n'ignore point qu'il y ait sur ce prince 3 autres sentiments. Il y avait 520 ans que les Assyriens étaient les maîtres de la Haute-Asie, lorsque les Mèdes commencèrent les premiers à se révolter. En combattant pour la liberté contre les Assyriens, les Mèdes s'aguerrirent et parvinrent à secouer le joug et à se rendre indépendants. Les autres nations les imitèrent. Tous les peuples de ce continent se gouvernèrent d'abord par leurs propres lois. Mais voici comment ils retombèrent sous la tyrannie. Il y avait chez les Mèdes un sage, nommé Déjocès. Il était fils de Praortès. Ce Déjocès, épris de la royauté, s'y prit ainsi pour y parvenir. Les Mèdes vivaient dispersés en brogades. Déjocès, considéré depuis longtemps dans la sienne, y rendait la justice avec d'autant plus de zèle et d'application que dans toute la Médie, les lois étaient méprisées, et qu'il savait que ceux qui sont injustement opprimés détestent la justice. Les habitants de sa brogade, témoins de ses mœurs, le choisirent pour juge. Déjocès, qui aspirait à la royauté, faisait paraître dans toutes ses actions de la droiture et de la justice. Cette conduite lui attira de grands éloges de la part de ses concitoyens. Les habitants des autres bourgades, jusqu'alors opprimés par d'injustes sentences, apprenant que Déjocès jugeait seul conformément aux règles de l'équité, accoururent avec plaisir à son tribunal et ne voulurent plus enfin d'être jugés par d'autres que par lui. La foule des clients augmentait tous les jours par la persuasion où l'on était de l'équité de ses jugements. Quand Déjocès vit qu'il portait seul tout le poids des affaires, il refusa de monter sur le tribunal sur lequel il avait jusqu'alors rendu la justice et renonça formellement à ses fonctions. Il prétexta le tort qu'il se faisait à lui-même en négligeant ses propres affaires, tandis qu'il passait les jours entiers à terminer les différends d'autrui. Les brigandages et l'anarchie régnèrent donc dans les bourgades avec plus de violence que jamais. Les maîtres s'assemblèrent et tinrent conseil sur leur état actuel. Les amis de Déjossès y parlèrent, comme je le pense, à peu près en ces termes. « Puisque la vie que nous menons ne nous permet plus d'habiter ce pays, choisissons un roi. La Médie étant alors gouvernée par de bonnes lois, nous pourrons cultiver en paix nos campagnes, sans craindre d'en être chassés par l'injustice et la violence. » Ce discours persuada les maîtres de se donner un roi. Aussitôt, on délibéra sur le choix. Toutes les louanges, tous les suffrages se réunirent en faveur de Déjossès. Il fut élu roi d'un consentement unanime. Il commanda qu'on lui bâtît un palais conforme à sa dignité et qu'on leur donna des gardes pour la sûreté de sa personne. Les maîtres obéirent. On lui construisit, à l'endroit qu'il désigna, un édifice vaste et bien fortifié, et on lui permit de choisir dans toute la nation des gardes à son gré. Ce prince ne se vit pas plutôt sur le trône qu'il obligea ses sujets à se bâtir une ville, à l'orner et à la fortifier sans s'inquiéter des autres places. Les Mèdes, dociles à cet ordre, élevèrent cette ville forte et immense connue aujourd'hui sous le nom d'Akbatanès, dont les murs concentriques sont renfermés l'un dans l'autre et construits de manière que chaque enceinte ne surpasse l'enceinte voisine que de la hauteur des créneaux. L'assiette du lieu, qui s'élève en colline, en facilita les moyens. On fit encore quelque chose de plus. Il y avait en tout 7 enceintes, et dans la dernière, le palais et le trésor du roi. Le circuit de la plus grande égale à peu près à celui d'Athènes. Les créneaux de la première enceinte sont peints en blanc, ceux de la seconde en noir, ceux de la troisième en pourpre, ceux de la quatrième en bleu, ceux de la cinquième sont d'un rouge orangé. C'est ainsi que les créneaux de toutes les enceintes sont ornés de différentes couleurs. Quant aux deux dernières, les créneaux de l'une sont argentés et ceux de l'autre dorés. Tels furent et le palais que se fit construire Déjossès et les maisons dont il l'environna. Le reste du peuple eut ordre de se loger autour de la muraille. Tous ces édifices achevés, il fut le premier qui établit pour règle que personne n'entrerait chez le roi, que toutes les affaires s'expédieraient par l'entremise de certains officiers qui lui en feraient leur rapport, que personne ne regarderait le roi. Il ordonna, outre cela, qu'on ne rirait ni ne cracherait en sa présence, et qu'il serait honteux à tout le monde de faire ces choses en présence les uns des autres. Déjossès institua ce cérémonial imposant afin que les personnes du même âge que lui et avec qui il avait été élevé, et que ceux de la naissance n'étaient pas moins distingués que la sienne, et qui ne lui étaient inférieurs ni en bravoure ni en mérite, ne lui portassent point envie et ne conspirassent point contre sa personne. Il croyait qu'en se rendant invisible à ses sujets, il passerait pour un être d'une espèce différente. Ses règlements faits et son autorité affermie, il rendit sévèrement la justice. Les procès lui étaient envoyés par écrit, il les jugeait et les renvoyait avec sa décision. Telle était sa méthode pour les procès. Quant à la police, s'il apprenait que quelqu'un eût fait une injure, il le mandait et lui infligeait une peine proportionnée au délit. Et pour cet effet, il avait dans tous ses états des émissaires qui veillaient sur les actions et les discours de ses sujets. Déjossès rassembla tous les maîtres dans un seul corps et ne régna que sur eux. Cette nation comprend plusieurs peuples, les Buses, les Paratacéniens, les Strucales, les Arisantes, les Budiens, les Mages. Ce sont là les peuples des Mèdes. Déjossès mourut après un règne de 53 ans. Son fils, Phraortès, lui succéda. Le royaume de Médie ne suffit pas à son ambition. Il attaqua d'abord les Perses et ce fut le premier peuple qui l'assujettit. Avec ces deux nations, l'une et l'autre très puissantes, il subjugua ensuite l'Asie et marcha de conquête en conquête jusqu'à son expédition contre les Assyriens et contre la partie de cette même nation qui habitait Ninive. Quoique les Assyriens, autrefois maîtres de l'Asie, fussent alors seuls et abandonnés de leurs alliés qui avaient secoué le joug, ils se trouvaient cependant encore dans un état florissant. Phraortès périt dans cette expédition avec les plus grandes parties de son armée, après avoir régné 22 ans. Ce prince étant mort, Cyaxare, son fils et petit-fils de Déjossès, lui succéda. On dit qu'il fut encore plus belliqueux que ses pères. Il sépara le premier les peuples d'Asie en différents corps de troupes et assigna aux piquiers, à la cavalerie, aux archers, chacun un rang à part. Avant lui, tous les ordres étaient confondus. Ce fut lui qui fit la guerre aux Lydiens et qui leur livra une bataille pendant laquelle le jour se changea en nuit. Ce fut encore lui qui, après avoir soumis toute l'Asie au-dessus du fleuve Halys, rassembla toutes les forces de son empire et marcha contre Ninive, résolu de venger son père par la destruction de cette ville. Déjà, il avait vaincu les Assyriens en bataille rangée. Déjà, il assiégeait Ninive lorsqu'il fut assailli par une nombreuse armée de Scythes ayant à leur tête Madias, leur roi, fils de Prototiès. C'était en chassant d'Europe les Cimériens qu'ils s'étaient jetés sur l'Asie. La poursuite des fuyards les avait conduits jusqu'au pays des Mèdes. Du Palus Méotis aux Phases et à la Colchide, on compte 30 journées pour quelqu'un qui marche bien. Pour se rendre de la Colchide en Médie, on passe des montagnes. Et le trajet n'est pas long, car il ne se trouve entre ces deux pays que celui des Sapiens. Lorsqu'on l'a traversé, on est sur les terres des Mèdes. Les Scythes, néanmoins, n'y entrèrent pas de ce côté. Mais ils passèrent plus haut et par une route beaucoup plus longue, laissant le mont Caucase sur leur droite. Les Mèdes, ayant livré bataille aux Scythes, la perdirent avec l'Empire de l'Asie. Les Scythes, maîtres de toute l'Asie, marchèrent de là en Égypte. Mais quand ils furent dans la Syrie de Palestine, Psamiticus, roi d'Égypte, vint au-devant d'eux, et à force de présents et de prières, il les détourna d'aller plus avant. Ils revinrent donc sur leurs pas, et passèrent par Ascalon, en Syrie, d'où ils sortirent la plupart sans y faire aucun dégât, à l'exception de quelques-uns d'entre eux qui, ayant été laissés en arrière, pillèrent le temple de Vénus Uranie. Ce temple, autant que je l'ai pu savoir par mes informations, est le plus ancien de tous les temples de cette déesse. Celui de Cypre lui doit son origine, de l'aveu même des Cypriens. Celui de Cythère a été aussi bâti par des Phéniciens, originaires de cette Syrie. La déesse envoya une maladie de femme à ceux d'entre les Scythes qui avaient pillé le temple d'Ascalon, et ce châtiment s'étendit à jamais sur leur postérité. Les Scythes disent que cette maladie est une punition de ce sacrilège, et que les étrangers qui voyagent dans leur pays s'aperçoivent de l'état de ceux que les Scythes appellent Énarés. Les Scythes conservèrent 28 ans l'Empire de l'Asie. Ils ruinèrent tout par leur violence et leur négligence. Outre le tribut ordinaire, ils exigeaient encore de chaque particulier un impôt arbitraire. Et, indépendamment de ses contributions, ils parcouraient tout le pays, pillant et enlevant à chacun ce qui lui appartenait. Cyaxares et les Mèdes, en ayant invité chez eux la plus grande partie, les massacrèrent après les avoir enivrés. Les Mèdes recouvrèrent par ce moyen et leurs états et l'empire sur les pays qu'ils avaient auparavant possédés. Ils prirent ensuite la ville de Ninive. Quant à la manière dont ils s'en rendirent maîtres, j'en parlerai dans un autre ouvrage. Enfin, ils subjuguèrent les Assyriens, excepté le pays de Babylone. Ces conquêtes achevées, Cyaxares mourut. Il avait régné 40 ans, y compris le temps que dura la domination des Scythes. Astyage, son fils, lui succéda. Il naquit à ce prince une fille qu'il nomma Mandane. Il s'imagina en dormant qu'elle urinait en si grande abondance que sa capitale et l'Asie entière en étaient inondées. Ayant communiqué ce songe à ceux d'entre eux, les mages qui faisaient profession de les interpréter, il fut effrayé des détails de leurs explications. Et il le fut au point que lorsque sa fille fut nubile, il ne voulut pas lui donner pour époux un maître digne de lui par sa naissance. Mais il lui fit épouser un perse nommé Cambyse qu'il connaissait pour un homme d'une grande maison et demeure douce et tranquille, parce qu'il le regardait comme bien inférieur à un maître de médiocre condition. La première année du mariage de Cambyse avec Mandane, Astyage eut un autre songe. Il lui sembla voir sortir du sein de sa fille une vigne qui couvrait toute l'Asie. Ayant communiqué ce songe aux interprètes, il fit venir de Perse Mandane, sa fille, qui était enceinte et proche de son terme. Aussitôt après son arrivée, il la fit garder dans le dessein de faire périr l'enfant dont elle serait mère. Les mages interprètent des songes lui ayant prédit d'après cette vision que l'enfant qui naîtrait de cette princesse régnerait un jour à sa place. Comme Astyage se tenait en garde contre cet événement, Cyrus fut à peine né qu'il manda Harpage, son parent, celui de tous les maîtres qui lui étaient le plus attachés, et sur lequel il se reposait du soin de toutes ses affaires. « Harpage, lui dit-il, exécute fidèlement l'ordre que je vais te donner, sans chercher à me tromper, de crainte qu'en t'attachant à d'autres maîtres que moi, tu ne travailles à ta propre perte. Prends l'enfant qui vient de naître de Mandane, porte-le dans ta maison, fais-le mourir et l'inhume ensuite comme il te plaira. « Seigneur, répondit Harpage, j'ai toujours cherché à vous plaire et je ferai mon possible pour ne jamais vous offenser. » Si vous voulez que l'enfant meure, j'obéirai exactement à vos ordres, du moins autant qu'il dépendra de moi. Après cette réponse, on remit l'enfant, couvert de riches ornements, entre les mains d'Harpage afin qu'il le fît mourir. Il s'en retourna chez lui les larmes aux yeux. et en abordant sa femme, il lui raconta tout ce qu'Astiage lui avait dit. « Quelle est votre résolution ? » reprit-elle. « Je n'exécuterai point les ordres d'Astiage, » répondit-il. « Dût-il devenir encore plus emporté et plus furieux qu'il ne l'est maintenant ? » « Je n'obéirai point à ses volontés. Je ne me prêterai point à ce meurtre. Non, je ne le ferai point par plusieurs raisons. Premièrement, je suis parent de l'enfant. Secondement, Astiage est avancé en âge et n'a point d'enfant mâle. Si, après sa mort, la couronne passe à la princesse sa fille, dont il veut aujourd'hui que je fasse mourir le fils, que me reste-t-il, sinon la perspective du plus grand danger ? Pour ma sûreté, il faut que l'enfant périsse, mais que ce soit par les mains de quelqu'un des gens d'Astiage et non par le ministère des miens. » Il dit, et sur le champ, il envoya un express à celui des bouviers d'Astiage qu'il savait mener ses troupeaux dans les meilleurs pâturages, et sur les montagnes les plus fréquentées par les bêtes sauvages. Il s'appelait Mithradates. Sa femme, esclave d'Astiage ainsi que lui, se nommait Spaco, nom qui, dans la langue des Mèdes, signifie la même chose que Sino dans celle des Grecs, car les Mèdes appellent une chienne Spaco. Les pâturages où il gardait les bœufs du roi étaient au pied des montagnes, au nord d'Akbatane et vers le pont Euxin. De ce côté-là, vers les Sapires, la Médie est un pays élevé, rempli de montagnes et couvert de forêts, au lieu que le reste du royaume est plat et uni. Le bouvier que l'on avait mandé en diligence étant arrivé, Arpage lui parla ainsi. « Astiage te commande de prendre cet enfant et de l'exposer sur la montagne la plus déserte afin qu'il périsse promptement. » Il m'a ordonné aussi de te dire que si tu ne le fais pas mourir et que tu lui sauves la vie de quelque manière que ce soit, il te fera périr par le supplice le plus cruel. Ce n'est pas tout. Il veut encore que je sache par moi-même si tu as exposé cet enfant. » Aussitôt, Mithridate prit l'enfant et retourna dans sa cabane par le même chemin. Tandis qu'il allait à la ville, sa femme, qui n'attendait de jour en jour que le moment d'accoucher, mit au monde un fils par une permission particulière des dieux. Ils étaient inquiets l'un de l'autre. Le mari craignant pour sa femme prête à accoucher, la femme pour son mari, parce qu'Arpage n'avait pas coutume de le mander. Dès qu'il fut de retour, sa femme, surprise de le voir au moment où elle s'y attendait le moins, lui parla la première. Il voulut savoir pourquoi Arpage l'avait envoyé chercher avec tant d'empressement. « Ma femme, lui dit-il, je n'ai pas plutôt été dans la ville que j'ai vu et entendu des choses que je voudrais bien avoir ni vues ni entendues. Et plutôt Dieu qu'elles ne fussent jamais arrivées à nos maîtres. » Toute la maison d'Arpage était en pleurs. Frappé d'effroi, je pénètre dans l'intérieur. Je vois à terre un enfant qui pleurait, qui palpitait. Il était couvert de draps d'or et de langes de diverses couleurs. Arpage n'eut pas plus tôt aperçu qu'il me commanda d'emporter promptement cet enfant et de l'exposer sur la montagne la plus fréquentée par les bêtes féroces. Il m'a assuré que c'était Astiage lui-même qui me donnait cet ordre et m'a fait de grandes menaces si je manquais à l'exécuter. J'ai donc pris cet enfant et l'ai emporté, croyant qu'il était à quelqu'un de sa maison, car je n'aurais jamais imaginé quel était son véritable père. J'étais cependant étonné de le voir couvert d'or et de langes si précieux. Je ne l'étais pas moins de voir toute la maison d'Arpage en pleurs. Enfin, chemin faisant, j'ai bientôt appris du domestique qui m'a accompagné hors de la ville et qui m'a remis l'enfant, qu'il est à Mandane, fils d'Astiage et à Cambyse, fils de Cyrus, et qu'Astiage ordonne que le fasse mourir. Le voici, cet enfant. » En achevant ces mots, Mithradate découvre l'enfant et le montre à sa femme. Charmée de sa grandeur et de sa beauté, elle embrasse les genoux de son mari et le supplie les larmes aux yeux de ne point exposer cet enfant. Il lui dit qu'il ne pouvait s'en dispenser, qu'il devait venir des surveillants de la part d'Arpage, et que, s'il n'obéissait pas, il périrait de la manière la plus cruelle. Spaco, voyant que ses discours ne faisaient aucune impression sur son mari, reprit la parole. « Puisque je ne saurais, dit-elle, te persuader et qu'il faut absolument qu'on voie un enfant exposé, fais du moins ce que je vais te dire. Je suis accouchée d'un enfant mort. Va le porter sur la montagne et nourrissons celui de la fille d'Astiage comme s'il était à nous. Par ce moyen, on ne pourra te convaincre d'avoir offensé tes maîtres et nous aurons pris un bon parti. Notre enfant mort aura une sépulture royale et celui qui reste ne perdra point la vie. » Le bouvier sentit que, dans cette conjoncture, sa femme avait raison. Et sur le champ, il suivit son conseil. Il lui remet l'enfant qu'il avait apporté pour le faire mourir, prend le sien qui était mort, le met dans le berceau du jeune prince avec tous ses ornements, et va l'exposer sur la montagne la plus déserte. Le troisième jour après, ayant laissé pour garder le corps un de ceux qui avaient soin des troupeaux sous ses ordres, il alla à la ville, et s'étant rendu chez Arpage, il lui dit qu'il était prêt à lui montrer le corps mort de l'enfant. Harpage, ayant envoyé avec lui ses gardes les plus affidés, fit, sur leur rapport, donner la sépulture au fils de Mithridate. À l'égard du jeune prince, Paco en prit soin et l'éleva. Il fut dans la suite connu sous le nom de Cyrus, mais Paco lui donna quelque autre nom. Cet enfant, étant âgé de 10 ans, eut une aventure qui le fit reconnaître. Un jour que, dans le village où étaient les troupeaux du roi, il jouait dans la rue avec d'autres enfants de son âge, ceux-ci l'élurent pour leur roi, lui qui était connu sous le nom de fils du bouvier. Il distribuait aux uns les places d'intendant de ses bâtiments, aux autres celles de garde du corps. Celui-ci était l'œil du roi, celui-là devait lui présenter les requêtes des particuliers. Chacun avait son emploi selon ses talents et le jugement qu'emportait Cyrus. Le fils d'Artabarès, homme de distinction chez les maîtres, jouait avec lui. Ayant refusé d'exécuter ses ordres, Cyrus le fit saisir par les autres enfants et maltraiter à coups de verge. On ne l'eut pas plutôt relâché, qu'outré d'un traitement si indigne de sa naissance, il alla à la ville porter les plaintes à son père contre Cyrus. Ce n'est pas qu'il lui donna ce nom, Cyrus ne le portait point encore, mais il l'appelait le fils du bouvier d'Astiage. Dans la colère où était Artabarès, il alla trouver le roi avec son fils et se plaignit du traitement odieux qu'il avait reçu. « Seigneur, dit-il en découvrant les épaules de son fils, c'est ainsi que nous a outragé un de vos esclaves, le fils de votre bouvier. » À ce discours, à cette vue, Astiage, voulant venger le fils d'Artabarès par égard pour le père, envoya chercher Mithridate, son fils. Lorsqu'ils furent arrivés, « Comment, dit le prince à Cyrus en le regardant, étant ce que tu es, as-tu l'audace de traiter d'une manière si indigne le fils d'un des premiers de ma cour ?»« Je l'ai fait, seigneur, avec justice, répondit Cyrus. » Les enfants du village, le nombre desquels il était, m'avaient choisi en jouant pour être leur roi. Je leur en paraissais le plus digne. Tous exécutaient mes ordres. Le fils d'Artabarès n'y eut aucun égard et refusa de m'obéir, je l'en ai puni. Si cette action mérite quelque châtiment, me voici prêt à le subir. La ressemblance des traits de cet enfant avec les siens, sa réponse noble, son âge qui s'accordait avec le temps de l'exposition de son petit-fils, tout concourait en un mot à le faire reconnaître d'Astiage. Frappé de ces circonstances, ce prince demeura quelque temps sans pouvoir parler. Mais enfin, revenu à lui et voulant envoyer Artabarès afin de sonder Mithridate en particulier, « Artabarès, lui dit-il, vous n'aurez aucun sujet de vous plaindre de moi, ni vous ni votre fils. » Ensuite, il ordonna à ses officiers de conduire Cyrus dans l'intérieur du palais. Resté seul avec Mithridate, il lui demanda où il avait pris cet enfant et de qui il le tenait. Celui-ci répondit qu'il en était le père, que sa mère vivait encore et demeurait avec lui. Astiage répliqua qu'il ne prenait pas un bon parti, et qu'il voulait de gaieté de cœur se rendre malheureux. En disant cela, il fit signe à ses gardes de le saisir. Mithridate, voyant qu'on le menait à la question, avoua enfin la vérité. Il reprit l'histoire dès son commencement, découvrit tout sans rien dissimuler, et, descendant aux plus humbles supplications, il pria le roi de lui pardonner. La vérité découverte, Astiage ne tint pas grand compte de Mithridate. Mais, violemment irrité contre Harpage, il commanda à ses gardes de le faire venir. Et lorsqu'il parut devant lui, il lui parla en ces termes. « Harpage, de quel genre de mort as-tu fait périr l'enfant de ma fille que je t'ai remis ?» Harpage, apercevant Mithridate dans l'appartement du roi, avoua tout sans détour de craindre d'être convaincu par des preuves sans réplique. « Seigneur, dit-il, quand j'ai reçu l'enfant, j'examinai comment je pourrais, en me conformant à vos volontés et sans m'écarter de ce que je vous dois, n'être coupable d'un meurtre ni à l'égard de la princesse votre fille, ni même au vôtre. Je mandai en conséquence Mithridate. Je lui remis l'enfant entre les mains et lui dis que c'était vous-même qui ordonniez sa mort. Je ne me suis point écarté en cela de la vérité, puisque vous m'aviez commandé de le faire mourir. En lui livrant cet enfant, je lui enjoignis de l'exposer sur une montagne déserte et de rester auprès de lui jusqu'à ce qu'il fût mort. Enfin, je le menaçai des plus rigoureux tourments s'il n'accomplissait tout de point en point. Ses ordres exécutés et l'enfant étant mort, j'envoyai là le plus fidèle de mes eunuques. Je le vis par leurs yeux et je l'enterrai. Les choses, Seigneur, se sont passées de cette manière, et tel est le sort qu'a éprouvé cet enfant. Harpage parla sans détour, mais Astiage, dissimulant son ressentiment, lui répéta d'abord toute l'histoire comme il l'avait apprise de Mithridate, et après qu'il l'eût répété, il ajouta que l'enfant vivait et qu'il en était content. Car enfin, dit-il, la manière dont on l'avait traité me faisait beaucoup de peine, et j'étais très sensible aux reproches de ma fille. Mais, puisque la fortune nous a été favorable, envoyez-moi votre fils pour tenir compagnie au jeune prince nouvellement arrivé, et ne manquez pas de venir souper avec moi. Je vais offrir pour le recouvrement de mon petit-fils des sacrifices au dieu à qui cet honneur est réservé. » Harpage, s'étant à ces paroles prosterné devant le roi, s'en retourna chez lui, également flatté de l'heureuse issue de sa faute, et de ce que le roi l'avait invité au festin qu'il donnait en réjouissance des bienfaits de la fortune. Il ne fut pas plutôt entré chez lui qu'il appela son fils unique, âgé d'environ 13 ans, l'envoya au palais d'Assiage avec ordre de faire tout ce que le prince lui commanderait, et, transporté de joie, il raconta cette aventure à sa femme. Dès que le fils d'Harpage fut arrivé au palais, Astiage le fit égorger. On le coupa ensuite par morceaux dont les uns furent rôtis et bouillis. On les apprêta de diverses manières et on le tint prêt à être servi. L'heure du repas venu, les convives s'y rendirent et Harpage avec eux. On servit à Astiage et aux autres seigneurs du mouton et à Harpage le corps de son fils. Et c'était la tête et les extrémités des mains et des pieds que le roi avait fait mettre dans une corbeille couverte. Lorsqu'il parut avoir assez mangé, Astiage lui demandait s'il était content de ce repas. « Très content !» répondit Harpage. Aussitôt, ceux qui en avaient reçu l'ordre, apportant dans une corbeille couverte la tête, les mains et les pieds de son fils, et se tenant devant lui, lui dirent de la découvrir et d'en prendre ce qu'il voudrait. Harpage obéit, et découvrant la corbeille, il aperçut les restes de son fils. Il ne se troubla point et sut se posséder. Astiage lui demanda s'il savait de quel gibier il avait mangé. Il répondit qu'il le savait, mais que tout ce que faisait un roi lui était agréable. Après cette réponse, il s'en retourna chez lui avec les restes de son fils qu'il n'avait, à ce que je pense, rassemblés que pour leur donner la sépulture. Le roi, s'étant ainsi vengé d'Harpage, manda les mêmes mages qui avaient interprété son songe de la manière que nous avons dit, afin de délibérer avec eux sur ce qui concernait Cyrus. Les mages arrivés, il leur demanda quelle explication il avait autrefois donnée du singe qu'il avait eu. Ils lui firent la même réponse. Si l'enfant, dirent-ils, n'est pas mort, en un mot, s'il vit encore, il faut qu'il règne. L'enfant vit et se porte bien, leur dit Astiage. Il a été élevé à la campagne. Les enfants de son village l'ont élu pour leur roi. Il a fait tout ce que font les véritables rois. Il s'est donné des gardes du corps, des gardes de la porte, des officiers pour lui faire le rapport des affaires. En un mot, il a créé toutes les autres charges. Que pensez-vous que cela puisse présager ? « Puisque l'enfant vit, répondirent les mages, et qu'il a régné sans aucun dessein prémédité, rassurez-vous, Seigneur. Vous n'avez plus rien à craindre, il ne régnera pas une seconde fois. Il y a des oracles dont l'accomplissement s'est réduit à un événement frivole et des songes qui ont abouti à bien peu de choses. Je suis moi-même aussi de cet avis, reprit Astiage. L'enfant ayant déjà porté le nom de roi, le songe est accompli, je crois de n'avoir plus rien à craindre. Cependant, réfléchissez-y mûrement. » Et donnez-moi le conseil que vous pensez le plus avantageux à votre sûreté et à la mienne. Seigneur, dirent les mages, la stabilité et la prospérité de votre règne nous importent beaucoup. Car enfin, la puissance souveraine venant à tomber entre les mains de cet enfant qui est perse, passerait à une autre nation. Et les perses, nous regardant comme des étrangers, n'auraient pour nous aucune considération et nous traiteraient en esclaves. Mais vous, Seigneur, qui êtes notre compatriote tant que vous occuperez le trône, vous nous comblerez de faveurs, et nous régnerons en partie avec vous. Ainsi, notre intérêt nous oblige à tous égards à pourvoir à votre sûreté et à celle de votre empire. Si nous pressentions maintenant quelques dangers, nous aurions grand soin de vous en avertir. Mais puisque l'issue de votre songe est frivole, nous nous rassurons et nous vous exhortons à vous tranquilliser de même. Éloignez de vous cet enfant et renvoyez-le en Perse à ceux dont il tient le jour. Astiage, charmé de cette réponse, manda Cyrus. « Mon fils, lui dit-il, je vous ai traité avec injustice sur la foi de 20 songes. Mais enfin, votre heureux destin vous a conservé et vous vivez. Soyez tranquille. Partez pour la Perse escorté par ceux que je vous donnerai pour vous accompagner. Vous y verrez votre père et votre mère qui sont bien différents de Mithradate et de sa femme. »